VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du lundi 31 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Dans quelques instants, le journal de la CAN d'Emmanuel Jurtap.
Visite d'une délégation de la CDAO au Burkina Faso suite au coup d'état militaire d'il y a une semaine.
En République démocratique du Congo, 51 condamnations à mort dans le procès du meurtre de deux experts de l'ONU en 2017 au Kasaï.
RDC toujours, l'armée dit avoir tué au moins 11 rebelles du M23.
Un autre manifestant, le 79e, a été tué dans de nouveaux défilés contre le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan au Soudan.
Le Congrès américain est proche de nouvelles sanctions contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine.
Voilà pour les titres, le journal maintenant. Les affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations sont au complet depuis hier soir. Les rencontres Sénégal-Burkina Faso et Cameroun-Égypte se disputent mercredi et jeudi prochain. Pour le journal de la CAN, nous retrouvons à Yaoundé Emmanuel Jultap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Deux anciens vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun et l'Égypte. Deux finalistes malheureux, le Sénégal et le Burkina Faso, se retrouvent dans le dernier carré d'as de la CAN. Coup de sifflet sur ce quatuor avec Jules Valentin Ngoué en ouverture de ce journal depuis Libreville.
Bonjour. La logique a été respectée samedi en première heure avec la victoire incontestable du Cameroun face à une courageuse équipe de Gambie qui a subi, devant des Camerounais retrouvés, une cuisante défaite tactique et technique. Les Camerounais ont su relever leur niveau de jeu et faire des choix judicieux en imposant à l'adversaire du jour un attaque-défense permanent. Les Lions indomptables ont réussi à déverrouiller les couloirs gambiens, à garder la possession de balles, à soigner leur précision technique avec une régularité et une patience à toute épreuve, ce qui a rassuré leurs nombreux supporters avant le choc de la demi-finale contre une équipe d'Égypte tout aussi retrouvée et victorieuse du Maroc lors du quart de finale le plus relevé du week-end. Les étalons du Burkina Faso, qui ont confirmé leur statut de bête noire des aigles de Tunisie, gagnent le quart de finale le plus ouvert. Tandis qu'en dernière heure, le Sénégal se qualifie devant le Zalan national de Guinée, sans doute trop fébrile en fin de rencontre. En définitive, les affiches des demi-finales nous proposent donc jeudi soir un sulfureux duel d'Afrique de l'Ouest entre le Burkina Faso et le Sénégal, tandis que le Cameroun et l'Égypte croisent le fer pour un classique continental au sommet entre les deux recordmen des trophées en Afrique. À bientôt.
Révivons à présent les matchs des quarts de finale de dimanche, en commençant par le dernier qui s'est soldé sur la victoire du Sénégal. 3-1 face à la Guinée équatoriale. À Medine Si,
les premiers buts étaient largement en faveur des Lions du Sénégal, à l'image de Sadio Mané. Après une bonne domination et une maîtrise du ballon, le Sénégal finit par ouvrir le score sur un bon service de l'attaquant de Liverpool, Famara Diédhiou ouvre le score. C'était à la 28e minute. Les poulains d'Aliou Cissé vont gérer cette courte mais précieuse avance jusqu'à la pause. Mais au retour des vestiaires, la Guinée équatoriale a l'image d'Iban Edou montré mieux avec le ballon. Le petit attaquant d'origine espagnole obtenait même un penalty en envoyant le ballon volontairement sur la main de Kalidou Koulibaly. Mais après l'intervention du VAR, l'arbitre décidait de revenir sur sa décision en annulant le penalty. Mais cette décision de l'arbitre en faveur du Sénégal n'a pas empêché les Équato-Guinéens de remettre les pendules à l'heure. À la 57e minute, Basilou Nong servait Yannick Bouyala dans la surface qui trompait Edouard Mandy de l'extérieur des pieds. Aliou Cissé décidait d'ailleurs de faire des changements pour redonner du rythme à son équipe. Kouyaté qui venait tout juste d'entrer en jeu donnait raison à son entraîneur puisqu'il marquait le second but du Sénégal sur une erreur de la défense adverse. C'était à la 68e minute. Quelques minutes plus tard, c'est Ismaël Sarr qui faisait le break. 3-1 à la 81e minute. Le Sénégal pouvait gérer ce score pour écarter la Guinée équatoriale. Amédine Sy pour la VOA Afrique.
Dans la confrontation Égypte-Maroc, les Lions de l'Atlas ont ouvert le score en tout début de match sous pénalty. Mohamed Salah a égalisé en seconde période avant de donner la passe décisive dans les prolongations à Trezeguet qui a cloué le Maroc. Mohamed Salah satisfait d'être à ce stade au regard du niveau du tournoi.
Well, I think it's tough for everyone. Like you see, Algeria lost in the group.
C'est difficile pour tout le monde. Vous voyez, l'Algérie a perdu en phase de groupe alors qu'elle a gagné la fois passée. Elle avait une bonne équipe et elle a perdu. Le Sénégal s'est qualifié en phase de groupe avec un point. Je ne veux rien dire de mal au sujet de qui que ce soit. Mais je veux seulement souligner que le tournoi est difficile pour tout le monde. C'était difficile pour nous au début, jusqu'à ce que nous nous y adaptions. Le Nigeria a été la meilleure équipe en phase de groupe et il a perdu. Donc, vous ne pouvez jamais connaître l'issue d'un match. Il est donc temps de se concentrer sur le Cameroun, puis on verra. Je pense que les joueurs se sont donnés à fond aujourd'hui. Ils l'ont fait pour chaque match. Nous espérons pouvoir continuer et gagner.
Samedi, le Cameroun a désillusionné la Gambie 2-0 grâce à un doublé de Karl Toko Ekambi. La surprise de cette journée est venue de Garoua où le Burkina Faso, grâce à un but plein de sang-froid de Ouattara Dango, a éliminé la Tunisie 1-0. Et à Bobo Dioulasso, la joie était à son comble, nous dit notre correspondant Alidou Ouédraogo.
Ils étaient des milliers à venir célébrer et saluer leur sélection, surtout après une semaine d'incertitude marquée par l'avènement de l'armée au pouvoir. De quoi donc détendre l'atmosphère? Des moments de liesse, de joie et de satisfaction qui font manquer les mots.
Très satisfait, j'en fais de mieux.
C'est ce qu'on attendait là, c'était 2-0. Mais vraiment,
la soirée a été longue et festive jusqu'à l'heure du couvre-feu. Minuit. La correspondance de Alidou Ouédraogo depuis Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
C'est une qualification à l'honneur du peuple selon Kamou Malo, le coach du Burkina Faso. Il a confié à Kader Traoré.
Nous dédions cette qualification à notre peuple. Et vu les derniers événements, on a eu un coup de fil du chef de l'État qui nous a encouragés et on lui avait promis cette qualification. Alors c'est fait, c'est le match de demi-finale.
Ce mercredi, derby d'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et le Burkina Faso. Et jeudi, place à un grand classique du football africain, Cameroun-Égypte au stade d'Olembé, dont la suspension provisoire a été levée hier par la CAF. C'est la fin du journal de la CAN. Alidou Ouédraogo, Kader Traoré, Amédine Sy, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, presque une semaine après le coup d'État au Burkina Faso, la CEDEAO, après son sommet vendredi, a suspendu ce pays et envoyé des émissaires ce week-end à Ouagadougou. Les chefs d'État-major des pays membres de l'organisation ouest-africaine ont rencontré les militaires qui ont pris le pouvoir. De la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
La délégation de chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO est arrivée samedi matin à Ouagadougou. Elle était conduite par Francis Béanzin, commissaire paix et sécurité de la CEDEAO, et par le vice-amiral Seth Amoama, le chef d'état-major du Ghana. Les rencontres se sont déroulées à huis clos. Les chefs d'état-major ont eu une séance de travail avec la junte, selon un communiqué de la présidence du Faso. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a expliqué aux émissaires de la CEDEAO que les récents changements politiques répondent aux attentes des populations en termes de sécurité, de refondation de la nation burkinabé et des valeurs de la République. Peut-on lire dans le communiqué de la présidence? Les émissaires qui sont restés 48 heures ont aussi eu un bref entretien avec le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Aujourd'hui, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mahamat Saleh Anadif, effectue une mission conjointe d'évaluation de la situation avec Mme Shirley Ayorkor Boshwe, ministre des Affaires étrangères du Ghana. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Une soixantaine de djihadistes ont été tués dans le nord du Burkina Faso lors d'une opération conduite par les forces burkinabées, assistée par des unités françaises de l'opération Barkhane, a annoncé hier l'état-major de l'armée française.
Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, fustigeant les récentes critiques de la France, a estimé que les tensions entre Paris et Bamako étaient dues au fait que la junte malienne a touché aux intérêts de la France en excluant des élections en février.
Dans une vidéo dont l'authenticité a été confirmée dimanche par les autorités maliennes, M. Diop a accusé la France d'avoir applaudi des coups d'État par le passé.
Le procès du meurtre de deux experts des Nations Unies en République démocratique du Congo en 2017 s'est achevé ce week-end par la condamnation à mort d'une cinquantaine de personnes et celle d'un colonel à 10 ans de prison. Le point avec Jean-Roger Bion.
Après un procès de 5 ans marqué par de nombreux reports et la mort de plusieurs prévenus en détention, un tribunal militaire a condamné à mort samedi Thomas Nkashama, un responsable local de l'immigration qui avait rencontré les fonctionnaires onusiens la veille de leur mort. Les autres condamnés à mort sont des membres de la milice Kamuina Nsapu à laquelle le gouvernement congolais impute ses assassinats. Un certain nombre d'entre eux ont été condamnés par contumace, soit parce qu'ils n'ont jamais été appréhendés, soit parce qu'ils se sont évadés après leur arrestation, selon l'avocat de la défense. Zaïda Catalan, ressortissante suédoise, et Michael Sharp, un Américain, tous deux employés par l'ONU, ont été tués en mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur les violences entre forces gouvernementales et une milice de la région du Kasaï dans le centre de la RDC. La RDC observe depuis 2003 un moratoire sur les exécutions. Les condamnés à mort devraient donc purger des peines de réclusion à perpétuité.
Par ailleurs, l'armée congolaise a affirmé hier avoir tué au début du week-end au moins 11 rebelles du M23 qu'elle avait pourchassés dans le parc national des Virunga, dans l'est de la RDC, après une attaque qui, selon les sources locales, a fait une trentaine de morts dans ses rangs le 24 janvier.
Un manifestant a été tué dimanche lors de nouveaux défilés à Khartoum et dans plusieurs villes du Soudan pour dénoncer le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan et réclamer justice et démocratie, Lionel Gahima.
La mobilisation ne faiblit pas. Plus de 3 mois après, le coup d'État mené le 25 octobre par le chef de l'armée soudanaise. La répression a fait dimanche un autre mort, le 79e, dans le rang de manifestants. D'après le syndicat de médecins pro-démocratie, la dernière victime est un homme de 27 ans touché à la poitrine par une balle dimanche à Khartoum. Les grenades lacrymogènes ont aussi plu dans les banlieues de Khartoum ainsi qu'à Guédaref dans l'est du Soudan, les manifestations ayant gagné comme à chaque fois de nombreuses villes. Œil pour œil a crié dimanche la foule à Khartoum avant de quitter les abords du palais présidentiel en fin d'après-midi, et les militaires à la caserne ont lancé les manifestants à Kassela et Wad Madani dans l'est, au Darfour dans l'ouest, à Kosti dans le sud ou encore à Dongola et à Dbara dans le nord. Alors que Washington a prévenu que poursuivre la répression pourrait avoir des conséquences, les autorités ont annoncé avoir confisqué les armes de soldats filmés tirant à la Kalachnikov sur des manifestants, mais disent avoir encore besoin de témoignages des manifestants.
Le Congrès américain est proche d'un accord sur une proposition de loi prévoyant de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, a déclaré dimanche l'influent sénateur démocrate Bob Menendez. Il promet des conséquences graves pour Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. Les détails avec Gabi Dorsil.
Interrogé sur la chaîne CNN à propos des travaux menés entre démocrates et républicains pour décider de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou, Bob Menendez, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a déclaré qu'il est indéniable qu'il existe une détermination incroyable au sein des deux parties pour soutenir l'Ukraine et pour qu'il y ait des conséquences graves envers la Russie si elle envahissait ce pays. Le sénateur républicain Jim Risch, interviewé conjointement sur CNN, est allé dans le sens de l'élu démocrate, décrivant les efforts par les élus des deux partis comme étant menés 24 heures sur 24 au cours des derniers jours pour parvenir à un consensus. Le président russe Vladimir Poutine devra payer un prix dévastateur s'il choisit le conflit plutôt que la diplomatie, a abondé Jim Risch. La Russie a déployé ces derniers mois des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine, faisant craindre une invasion. Si le gouvernement russe nie tout projet en ce sens, il insiste sur les garanties écrites pour la sécurité de la Russie, y compris les promesses que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN.
Le Conseil de sécurité se réunit ce lundi sur la crise ukrainienne à la demande de Washington qui, avec ses alliés de l'OTAN, intensifie ses efforts pour dissuader Moscou d'envahir l'Ukraine tout en préparant de nouvelles sanctions contre la Russie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, le nouveau code général des impôts fait l'objet d'une mauvaise interprétation. De nombreuses entreprises et même des particuliers y ont vu une opportunité de fructifier leurs bénéfices. Une situation qui inquiète le consommateur. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
Le code des impôts adopté le 8 décembre dernier fait jaser sur les réseaux sociaux. Les spécialistes du domaine fiscal sont unanimes à dire que les députés béninois, sur proposition du gouvernement, ont juste redonné un coup de neuf à un document vieux de 50 ans. Ella Anani, vendeuse à Cotonou, a vu le prix du plateau d'œuf augmenter de plus de 500 francs CFA.
Le plateau d'œuf, on l'achetait dans une société pour la revendre. Mais depuis que cette histoire de tasse est venue, le plateau d'œuf est livré à plus de 2350 francs. Les responsables de la société que ce sont les tasses. Oh, moi j'ai suivi à la qu'il n'y a pas de lien entre la surenchère entretenue par certains. Ce qui n'est pas bien parce que, franchement, nous, ça ne nous arrange pas.
Les sociétés d'État ne sont pas épargnées. Halilou Yakoubou dit avoir remarqué une nette augmentation du prix de l'électricité.
Tu vas n'importe où, par exemple à la SBO aujourd'hui, c'est les tasses. 1000 francs qu'on payait avant, de 1000 francs, tu vas trouver 7 unités. Aujourd'hui, ça revient à 6. On ne comprend rien. On ne peut pas vouloir faire, nous, notre bonheur et nous associer.
Face à la confusion, le directeur général des impôts a entrepris des sorties médiatiques pour sensibiliser les citoyens sur ces nouvelles mesures fiscales qui, selon ses dires, ont été totalement sorties de leur contexte, surtout celles liées aux activités culturelles commerciales. Pour Nicolas Yenoussi, ces tasses sont aussi vieilles que l'ancien code général des impôts.
Ces impôts n'existent pas dans notre système fiscal. Dans tous les systèmes fiscaux, les activités commerciales telles que les spectacles et les manifestations culturelles en matière d'impôts perçus au profit des communes font l'objet d'une autorisation de l'autorité communale. Et ça, c'est des dispositions qui existent depuis très longtemps. Et l'autorité communale, pour autoriser ces activités culturelles, je dis bien commerciales, subordonne cela à des paiements de patentes ou de licences.
Alain Nounayon est un conducteur de taxi-moto. Il a longtemps cotisé pour s'offrir une moto neuve, mais il va falloir qu'il rajoute 100 000 francs CFA à ce qu'il avait prévu de payer.
J'étais désespéré quand on m'a dit qu'à cause des nouvelles taxes, je ne pourrais plus acheter la moto pour laquelle je me suis sacrifié. J'ai dû donner moins d'argent à ma femme et mes enfants dans l'espoir de m'acheter une nouvelle moto pour plus de revenus quotidiens. Mais voilà, les taxes, encore les taxes.
Les nouvelles taxes ne peuvent être la raison des augmentations des prix, assure Nicolas Yenoussi, le directeur général des impôts. Il dénonce et condamne la malhonnêteté de ces entreprises qui profitent de la méconnaissance du contenu du code pour se remplir les poches.
Il n'y a pas eu de création de nouveaux impôts. Ce qu'il y a eu fondamentalement, c'est qu'au niveau de l'impôt sur les sociétés, nous avons amélioré les règles de taxation. Je crois que beaucoup de personnes profitent de cette situation pour gruger les populations. Il y a beaucoup qui veulent profiter donc de la situation de la vie chère en général dans le monde entier pour gruger nos pauvres populations.
Dans les jours à venir, la Direction générale des impôts va renforcer sa campagne de vulgarisation du code pour une meilleure appropriation. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Les autorités sanitaires nigérianes affirment que l'espérance de vie du pays est parmi les pires au monde, la grippe et la pneumonie étant les deux principales causes de décès. Dans l'état nigérian de Cross River, une grave pollution de l'air augmente les cas de maladies respiratoires. Un reportage de Timothy Obiezu de Port Harcourt au Nigeria. Le récit est de Ginny Kapumbu-Villa.
Avant de partir travailler chaque jour, David Tolu Adamou, résident de Port-Harcourt, porte son masque facial pour filtrer l'air pollué et chargé de suie.
Constamment au quotidien, année après année, nous avons des problèmes avec la suie noire. Nous respirons cette substance nocive jour après jour, pendant notre sommeil, pendant que nous travaillons, lorsque nous faisons de l'exercice.
Le port d'un masque facial était une pratique ici, bien avant le début de la pandémie de coronavirus. En effet, l'air de cette ville nigériane est depuis longtemps pollué par les activités des raffineurs de pétrole illégaux, le torchage du gaz et la combustion des pneus et des déchets. Les autorités sanitaires affirment que la suie dans l'air augmente les affections respiratoires dans l'État. Quelques 23 000 cas au cours des 5 dernières années. Les autorités de l'État ont commencé à s'attaquer aux problèmes dans les zones touchées, a déclaré Samuel Nawasike, un responsable du gouvernement local.
Si les actions n'affectaient pas notre santé, alors nous ne ferions pas de soucis. C'est nous qui sommes ici, c'est nous qui mourons, c'est nous qui ressentons la douleur. Je suis ici tous les jours dans le gouvernement local des Kwere. Parfois, j'ouvre ma porte. Partout, il fait noir. Pendant ce temps, il doit y avoir du soleil.
Les maladies respiratoires, telles que la grippe et la pneumonie, sont l'une des principales causes de décès dans la zone. Dans le monde, près de 300 000 personnes sont mortes de ces maladies en 2018, selon les estimations de l'OMS, citées par le groupe World Life Expectancy. Selon les autorités de l'État de Rivers, la pollution par la suie aggrave le problème et depuis le début de cette année, elles ont réprimé les exploitants de raffineries illégales. Plus de 20 raffineurs illégaux ont été arrêtés et leurs bases fermées. Mais les critiques accusent les autorités de l'État de ne pas faire assez pour réduire la pollution. Ibiosiwa Sukubo est secrétaire à la publicité du Congrès national IJAO.
The government is only interested in...
Le gouvernement ne s'intéresse qu'aux revenus du pétrole et au gaz, mais il ne s'intéresse pas aux gens, il ne s'intéresse pas à l'environnement.
Pour l'instant, les autorités de l'État de Rivers affirment qu'elles poursuivront leur répression des raffineries illégales tout en cherchant d'autres moyens de protéger les résidents de la suie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au tiers de la nomination d'un chef de canton de Dar Ouaddaï, contesté par une partie de la population, s'est transformé en un violent conflit intercommunautaire. À quelques jours de son intronisation, la contestation a débordé dans les rues d'Abéché. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants, faisant une vingtaine de morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kotmadjingar.
Les 24 et 25 janvier, toutes les activités socio-économiques ont été paralysées dans la province du Ouaddaï. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques à Abéché, faisant de nombreux morts et des blessés.
Le sultan et le chef de canton incriminés ont été provisoirement suspendus de leurs fonctions. Nous sommes en train de continuer l'enquête pour savoir quelle est la responsabilité de chacun dans ce drame.
Abdramane Koulama, la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, annonçant la première sanction contre les autorités traditionnelles dans un conflit qui a fait 13 morts et plus de 60 blessés selon le bilan officiel, alors que des sources indépendantes parlent d'une vingtaine de morts.
Le barreau du Tchad tient à rappeler au gouvernement que l'ordre et la sécurité publique ne sauraient justifier des violations graves des droits de l'homme, notamment les traitements cruels, inhumains et dégradants ou la perte des vies humaines.
Maître Laguerre Girandi Dionro, président du Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Tchad, il exige une enquête sérieuse et indépendante pour que les responsables soient traduit en justice.
Ces forces, au lieu de rester dans leur mission régalienne, se sont muées en forces d'insécurité vis-à-vis de la population du Ouaddaï. À la gâchette facile, tirant à balles réelles, ce qui a eu pour conséquence des pertes en vies humaines et des blessés. Le barreau exige qu'une enquête sérieuse et indépendante soit menée et que les membres des forces de sécurité impliqués dans ces bavures soient traduits le plus tôt devant les juridictions.
Abdrahmane Koulama, la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a promis une sanction sévère contre les instigateurs et les auteurs de ce drame.
Vous savez que toute vie tchadienne ôtée de cette façon est un drame. Il n'est pas question d'amener une quelconque répression sur quelque population que ce soit. Nous avons le devoir de protéger ces vies-là et nous nous attelons à la protection de la vie des citoyens, mais surtout nous avons l'obligation d'une justice vis-à-vis de tous.
Les conséquences de ce conflit se font sentir jusque dans la capitale. Par solidarité, les commerçants ressortissants du Wadaï et autres résidents en N'Djamena ont fermé boutique, ce qui crée quelques désagréments pour la population.
Par rapport à la fermeture des boutiques, nous avons d'énormes difficultés. Ce n'est pas du tout facile. Même prendre le thé le matin, c'est pas facile. Et nous sommes obligés des fois de prendre le thé, le Nescafé sans sucre. Nous implorons la puissance divine afin que cette situation soit résolue au plus tôt possible. Sinon, c'est pas du tout facile dans les quartiers, au marché également, de trouver ce que l'on a besoin réellement.
Les commerçants ressortissants du Wadaï ont annoncé la réouverture des boutiques en N'Djamena à partir de ce 30 janvier et pour une semaine. Ils exigent l'annulation du décret de nomination du chef de canton et le départ du gouverneur. Selon les autorités de transition, les blessés sont pris en charge par le gouvernement et l'ordre est définitivement rétabli et les établissements scolaires doivent ouvrir leurs portes ce lundi à Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï. André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a transmis une correspondance aux autorités du pays selon laquelle, désormais, le caractère ethnique doit figurer sur la fiche d'identification du personnel. Et cela, que ce soit au public, au privé ou dans les organisations internationales. Les réactions suscitées par cette décision avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
En plus des informations affichées sur la carte nationale d'identité, nom, prénom, sexe, colline d'origine, commune, province, fonction, la nouvelle fiche d'identification du personnel tant au privé qu'au public, ainsi qu'aux organisations internationales, comportera l'ethnie de la personne recrutée si elle est de nationalité burundaise. Une mesure saluée par certains et décriée par d'autres.
C'est pas une bonne chose, vu que si ça va nous mener ou ça a mené le Rwanda, c'est pas une bonne chose.
Pour moi, c'est une mauvaise chose. Parce que au Burundi, il n'y a pas d'ethnie. Nous avons la même culture, nous avons la même langue. Pour moi, je vois les périodes qui sont passées dans les années 1993 où les Tutsis tuaient des Hutus, des Hutus tuaient des Tutsis. Je crois qu'il ne faudra pas utiliser ces fiches-là.
Pour moi, pas de problème. Ce n'est pas tabou de dire l'ethnie. Mais le problème qu'il y a, aujourd'hui, on commence à regarder l'ethnie au lieu de regarder les compétences. J'aimerais que les compétences prennent le devant.
Potassien Sivomana, juriste de formation, aujourd'hui représentant du parti UPRONA, Union pour le Progrès National de l'Opposition, cette fiche d'identification le laisse perplexe.
La question qu'on se pose, est-ce que cette fiche serait venue pour éclairer les Burundais et les garants de l'accord quant au respect de ces équilibres dans les corps de défense et de sécurité, parce que ces équilibres ont été bâtis en brèche. Les autres équilibres étaient consacrés au niveau des institutions politiques. Est-ce que là aussi, c'est pour venir corriger ces équilibres? Je ne crois pas.
Tassien Sivomana se pose aussi de nombreuses questions.
Là où ces équilibres sont obligatoires, ils ne sont pas gênés par leur transgression, mais ils obligent, par exemple, les organisations internationales qui n'ont rien à voir avec les histoires ethniques du Burundi pour qu'ils instaurent les quotas ethniques.
Dernièrement, l'Assemblée nationale burundaise a voté à l'unanimité le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation qui reconnaît qu'en avril 1972 et en 1973, un génocide a été perpétré contre la composante sociale hutue au Burundi. Notons également que 4 génocides sont condamné officiellement par les Nations Unies, dont celui des Tutsis au Rwanda voisin en 1994. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedoulia et Nanik Talani, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Calvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.